Et les matins débutent avec le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. L'actualité, en effet, toujours largement dominée ce matin par la pandémie de coronavirus et les mesures dont vous parliez, annoncées hier soir par le président de la République française, Emmanuel Macron, annonce donc la fermeture à compter de lundi de tous les établissements scolaires, crèches et universités. Il en appelle à la responsabilité de chacun, mais n'a pas annulé les élections municipales. Nous reviendrons sur ces mesures avec nos spécialistes politiques et santé.
Et pour tenter d'enrayer la pandémie, ce sont tous les États européens qui ont pris des mesures hier, apparemment sans coordination. Nous y reviendrons avec Angélique Bouin. Nous irons également en Corée du Sud où le fléau est loin d'être endigué.
Est en voie d'être endigué. Et puis c'est le début aujourd'hui du procès de Joël Le Squarnec, ce chirurgien soupçonné d'être le pire pédocriminel de l'histoire française. Après ce journal, dans la question du jour, Guillaume.
Eh bien, on va s'interroger comment ne pas céder à l'anxiété dans ce contexte de coronavirus.
La France ferme donc ses écoles et s'apprête à tourner au ralenti pour tenter au maximum de gagner du temps, selon les mots prononcés hier par le président de la République. Emmanuel Macron a lancé un appel solennel à faire bloc pour freiner l'épidémie de coronavirus dans une allocution télévisuelle d'une demi-heure. Principale mesure annoncée, donc la fermeture de tous les établissements d'éducation à partir de lundi, crèche, école, collège, lycée, université. Le président français a fait également un appel à la responsabilité de chacun. Il demande notamment de limiter au maximum les déplacements face à ce qu'il appelle la plus grave crise sanitaire depuis un siècle. Bonjour Stéphane Robert.
Oui, bonjour.
Vous êtes le chef du service politique de France Culture. Le chef de l'État, on le disait, a décidé de fermer les écoles, mais il n'a pas souhaité annuler les élections municipales.
Non, pourtant Emmanuel Macron aurait, semble-t-il, beaucoup hésité sur cette question, parce qu'il y a en apparence une contradiction d'un côté à fermer les écoles, de l'autre à maintenir les élections municipales pour le premier tour ce dimanche, mais surtout pour le second tour dimanche prochain, si, comme il l'affirme, l'épidémie de coronavirus continue de progresser dans le pays. Pour Emmanuel Macron, il fallait être cohérent. Si on ferme les écoles, on reporte également les élections. Il a consulté les spécialistes. Est-ce que c'est possible ? Ce n'est pas simple, mais oui, c'est possible. Il faut pour ça prendre un décret qui suspend la convocation des électeurs, à la suite de quoi il avait jusqu'à fin mars pour faire voter une loi par le Parlement qui aurait permis de prolonger le mandat actuel des conseillers municipaux. Il pouvait fixer fin mai, par exemple, ou fin juin, ce qui laissait l'opportunité d'organiser un nouveau scrutin. C'était donc possible. Or, hier soir, à 20h, il annonce ceci.
J'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. Il est important, dans ce moment, d'assurer la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions.
Si les arguments scientifiques ont sans doute compté dans sa décision, il semble qu'il y ait eu également des considérations politiques. Parce qu'il a beaucoup consulté toute la journée d'hier, notamment le président du Sénat, Gérard Larcher, pour qui il n'était pas question de reporter ce scrutin. On l'accuserait de manœuvre politicienne, ce que la droite avait d'ailleurs commencé à faire hier en toute fin d'après-midi. Et puis juridiquement, cette décision était peut-être contestable sur d'éventuels recours qui pourraient avoir lieu par la suite. Je ne peux rien garantir, aurait dit Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. Résultat, bon, très bien, on maintient les élections. Ce moment d'interrogation aura tout de même permis de focaliser l'attention médiatique sur l'intervention du président hier soir et de contribuer à la solennisation du moment nécessaire pour préparer la population au choc épidémique qui vraisemblablement nous attend d'ici quelques jours.
Merci Stéphane Robert, on vous retrouve dans le journal de 8h. Alors fermer les écoles, la France a décidé de le faire après la plupart de ses voisins européens. Les établissements devraient être fermés jusqu'aux vacances de printemps, au moins dans un premier temps. Pour assurer la continuité des cours, les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ont prévu des dispositifs d'enseignement à distance, notamment la plateforme Ma classe à la maison du Centre national d'enseignement à distance, le CNED. 12 millions d'élèves sont ainsi concernés. Quoi qu'il en soit, cette fermeture des classes est une bonne décision, en tout cas selon Philippe Vincent, secrétaire général du syndicat des personnels de direction. UNSA, il est interrogé par Anne-Laure Jumet.
On voit bien qu'au stade où on en est, il fallait passer à une vitesse supérieure en matière de mesures de précaution et celle-là paraît relativement raisonnable dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui en France. La mesure est assez facile à prendre et l'information en direction des familles, des usagers et des personnels assez aisée à faire circuler. Après, se posera la question du maintien de l'activité totale ou partielle de l'établissement, parce que se pose la question de que fait-on des personnels ? Les personnels sont-ils en congé ou sont-ils à disposition de l'établissement ? On a également des personnels qui ne dépendent pas de l'éducation nationale, les agents territoriaux qui dépendent des départements ou des régions. Enfin voilà. Donc il y a quand même un panel de mesures précises d'accompagnement dont on va attendre la diffusion.
Alors revenons sur les conséquences sanitaires de cette pandémie. En France, selon un dernier bilan officiel, 61 personnes sont décédées, 2876 ont été contaminées, soit près de 600 de plus en 24 heures. Il y a 129 cas graves en réanimation. Bonjour Tara Schlegel.
Bonjour.
Hier, Tara, le chef de l'État a fait un discours de remerciement très appuyé au personnel soignant.
Emmanuel Macron le sait, il va devoir compter plus que jamais sur le dévouement de la communauté médicale. C'est effectivement, comme il l'a rappelé, toute la chaîne qui est sollicitée, du SAMU aux meilleurs virologues, en passant par les infirmiers libéraux, les médecins généralistes, tous vont voir arriver de plus en plus de malades et tous doivent réorganiser leur vie professionnelle autour du virus. Le chef de l'État les a qualifiés de héros en blouse blanche qui prennent du temps sur leur vie familiale pour notre santé. Il parle d'une mobilisation magnifique, exemplaire, ce qui est vrai. Le président le mesure d'autant mieux que la communauté médicale est en crise. Avant l'arrivée du Covid-19, le système de santé était au bord de l'implosion, avec des dizaines de services d'urgence, en grève parfois depuis un an. Plus de 1200 médecins, chefs de service éminents, qui avaient décidé de démissionner de leurs fonctions administratives. Le 27 février dernier, quand il était monté au front rencontrer les équipes de la Pitié-Salpêtrière, un médecin avait interpellé assez vivement Emmanuel Macron au nom d'un hôpital public qui était en train de brûler comme la cathédrale Notre-Dame. « Vous pouvez compter sur moi », avait dit ce neurologue. L'inverse reste à prouver. Eh bien, hier soir, dans un discours très politique, le chef de l'État lui a répondu indirectement « La santé gratuite sans condition de revenu n'est pas un coût, mais un bien précieux ». Et il promet, Emmanuel Macron, de tirer les leçons de cette crise.
Merci beaucoup, Tara Schlegel. On vous retrouve également à 8h. Revenons, pardon. C'est à vous, Guillaume.
7h07 sur France Culture. La France, on le disait, Anne Lorchouin, a fini par fermer ses écoles, mais ses voisins européens aussi ont accéléré les mesures pour tenter d'enrayer la propagation du virus.
Oui, et la journée d'hier, qui faisait suite aux annonces du président américain de fermer ses frontières, a vu les États de l'Union européenne prendre une salve de décisions sans coordination apparente. Mais de fait, Angélique Bouin, la santé reste une compétence des États.
Nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique et qui voudrait d'ailleurs d'un ministre de la Santé supra-européen, ironise un diplomate. Chaque pays est donc maître du jeu. La République tchèque va refouler tous les voyageurs venant de 15 pays considérés à risque, dont l'Espagne et la France. En Slovaquie, on ne fait plus entrer que les Polonais, tandis que l'Allemagne impose désormais des contrôles sanitaires à notre frontière. C'est regrettable pour l'eurodéputée française membre de la droite européenne, Nathalie Collin-Osterlé.
C'est un enjeu aujourd'hui pour l'Union européenne d'apporter une réponse globale, de s'aligner sur les meilleures pratiques de chaque État et surtout de progresser dans une harmonisation des mesures.
Une harmonisation qui, dans les faits, fonctionne, mais partiellement. Les fermetures de toutes les écoles en France, mais aussi des bars ou des restaurants en Belgique, les mesures de confinement des personnes à risque ou l'usage intensif du télétravail sont directement issues des préconisations de l'Agence européenne de prévention des maladies, dont les experts s'étaient réunis hier matin. Mais dans le document de 3 pages qui indique que dans quelques semaines ou quelques jours, des situations similaires à celles de la Chine ou de l'Italie seront observées ailleurs, au sein de l'Union, il n'y a pas un mot sur l'utilité de fermer ses frontières. Ce virus n'a pas de passeport, rappelait hier soir le président Macron.
Pendant ce temps-là, en Corée du Sud, l'un des premiers États touchés par la pandémie après la Chine, ont comptabilisé hier plus de personnes rétablies que de nouvelles infections. Une première qui fait dire que le coronavirus est en recul dans le pays. Les autorités restent prudentes. Mais il faut reconnaître que la gestion du virus par Séoul a été efficace. Ses efforts en matière de prévention, de dépistage et de transparence ont, semble-t-il, permis d'endiguer l'épidémie. La correspondance sur place à Séoul de Louis Paligiano.
Après avoir proclamé l'état d'alerte maximum le mois dernier, la Corée du Sud a réalisé un nombre record de dépistages, près de 10 000 par jour, et déployé des initiatives tous azimuts afin de stopper la propagation du coronavirus. Parmi les plus innovantes, des centres de tests volants qui permettent aux automobilistes de se soumettre à un test depuis leur voiture, ainsi qu'un système destiné à retracer les itinéraires des patients infectés via les caméras de surveillance et les transactions par carte de crédit. La Corée du Sud s'est également démarqué en responsabilisant dès le départ ses citoyens. Alors que Pékin a imposé des restrictions de mouvement aux 11 millions d'habitants de Wuhan, l'épicentre du virus, Séoul a invité les résidents des régions les plus touchées à s'isoler volontairement. Les autorités ont également lancé des campagnes de distanciation sociale et de télétravail en appelant la population à éviter tout rassemblement sans pour autant verrouiller les villes, des consignes scrupuleusement respectées. Ainsi, les autorités sanitaires ont pu se concentrer sur le contrôle des foyers d'infection à un stade précoce, notamment sur les 210 000 fidèles d'une organisation religieuse. Bonne pioche, car il s'est avéré que plus de 60% des cas de contamination du pays étaient liés à cette église.
Et vous retrouverez bien sûr toutes les informations de France Culture sur cette crise du coronavirus sur notre site internet franceculture.fr. L'actualité en France, c'est aussi ce procès qui démarre aujourd'hui aux assises de Saintes en Charente-Maritime, celui d'un présumé violeur pédophile en série, le chirurgien Joël Le Squarnec. Ce premier procès porte sur des accusations de viol, exhibition et atteinte sexuelle sur 4 enfants, dont 2 nièces. Un second procès pourrait avoir lieu car ce chirurgien de 69 ans est soupçonné d'avoir agressé sexuellement au moins 349 personnes dans le centre et l'ouest de la France, à l'hôpital, mais pas seulement, ce qui ferait de lui le pire pédocriminel de l'histoire française. Malgré plusieurs alertes, le silence n'a été brisé que récemment. Le récit de Margot Delpierre.
Joël Le Squarnec a été arrêté en 2017 à Jonzac, dénoncé par sa voisine de 6 ans. Cette année-là, elle raconte que le chirurgien s'est montré nu dans le jardin mitoyen et lui a imposé une pénétration. C'est l'un des 4 enfants concernés par le procès qui s'ouvre aujourd'hui. Cela aurait-il pu être évité? En 2005, le médecin a été condamné par le tribunal correctionnel de Vannes à 4 mois de prison avec sursis pour détention d'images pédopornographiques. Pas d'obligation de soins, pas non plus d'interdiction d'exercer. Selon les informations de la cellule Investigation de Radio France révélée récemment, en 2006, alors que Joël Le Squarnec travaille à l'hôpital de Quimperlé, l'un de ses collègues, un psychiatre, informe la direction de l'établissement de cette condamnation. L'ordre des médecins prévenus à son tour convoque le chirurgien, mais n'a pas autorité pour le sanctionner. La direction départementale des affaires sanitaires et sociales ne semble pas prendre de mesures contre lui. Il aurait agi pendant près de 30 ans. Et selon lui, son épouse était au courant depuis 1996 de ce qu'il appelle ses pulsions. Elle dément, le procès pourrait se tenir à huis clos.
Le temps de ce vendredi variable avec de belles éclaircies. Les températures minimales seront plus fraîches, comptées de 1 à 10 degrés ce matin. Cet après-midi, comptées de 10 à 20 degrés.